le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les parcs éoliens offshore sont-ils des projets de développement durable ? Le développement durable suppose de concilier des impératifs écologiques, économiques et sociaux qui ne convergent pas spontanément, y compris quand il s'agit de développer une énergie décarbonée comme l'éolien. Comment concilier des impératifs environnementaux, planétaires et européens et des contraintes locales, contraintes environnementales, sociales et économiques ? Comment mesurer des impacts, évaluer des dynamiques et mettre en place des systèmes de gouvernance et de compensation équitables et acceptables par toutes les parties prenantes ? Dans les deux numéros précédents, nous avons fait un état des lieux des projets, situé les acteurs en présence et le cadre législatif. Puis, nous nous sommes focalisés sur les conflits et les enjeux en cours. Dans cette troisième partie, nous allons décrire les modes de négociation pour les réduire. Pour répondre à ces questions, nous avons invité Julien Hay, enseignant-chercheur à l'UBO, économiste au laboratoire Amur, Gaël Guéguin, professeur de droit à l'UBO, juriste au laboratoire Amur, et Antoine Carlier, écologue à l'Ifremer au sein du laboratoire d'écologie benthique côtière. La parole à Antoine Carlier sur les bilans écologiques et bilans carbone du développement des projets éoliens.
Je ne vais pas répondre dans le détail, mais ces études existent évidemment. C'est des études qu'on appelle des analyses de cycle de vie complet des projets. Et donc, ça vise à mesurer l'empreinte écologique vraiment de bout en bout, c'est-à-dire de l'extraction des matériaux qui servent à construire les éléments des éoliennes jusqu'au recyclage final de ces matériaux en fin de vie. Et donc, ça permet aussi d'évaluer l'empreinte, pas seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, mais aussi de pollution, parce qu'en fait, l'empreinte écologique, elle porte sur différents critères. Des diverses pollutions chimiques ou métalliques dans le milieu, de l'occupation des sols, de l'artificialisation, la production de déchets. Et donc, il y a des... Oui, grâce à ces analyses de cycle de vie, on peut comme ça comparer l'empreinte écologique globale des différentes stratégies de production d'énergie. Alors pour ce qui est des émissions de carbone, c'est sûr qu'on a des différences fondamentales. Enfin, l'éolien, je sais pas, c'est autour de entre 10 et 15 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit. Et puis à l'inverse, pour les énergies fossiles, c'est 1 ou 2 ordres de grandeur plus haut. Mais il faut aussi essayer d'estimer les autres aspects des impacts écologiques.
Bien. On a les moyens, attention, Antoine vient de dire, on a les moyens d'évaluer le bilan carbone d'une éolienne, mais on ne l'a pas fait. Et lors du le débat public sur la concertation sur les parcs flottants en Méditerranée s'est terminée le 31 octobre. Et il faut savoir qu'elle devait se terminer un mois plus tôt et la CNDP l'a prolongée parce qu'il n'y avait pas de bilan carbone. Et elle a demandé à ce que soit présenté un bilan carbone de l'éolien flottant français. Donc ça a vraiment été, lors du débat, ça avait vraiment été évoqué. Les citoyens présents, les associations, etc. disaient mais il n'y a pas de bilan carbone, on en veut un. Et donc on a prolongé le débat public pour qu'il y ait la présentation par les porteurs d'un bilan des projets. Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose aussi...
On arrive sur la troisième partie, qui est mon négociation et réduction des tensions. Il y a des contradictions éventuellement. Il y a une première que moi je vois peut-être, enfin qui est soulevée parfois, c'est l'éolien. Forcément, c'est un projet politique et donc c'est un projet qui peut être subventionné ou aidé, etc. Notamment avec le prix le prix qu'on attribue au kilowatt racheté. Et là, j'ai déjà tombé sur les textes là-dessus, c'est y a-t-il une contradiction entre la mise en place d'incitations et de subventions pour aider à lancer ce projet et, dans le cadre européen, de la liberté du marché, à partir d'un point de vue juridique, si c'est possible.
Alors, je vais faire très court. Oui. Alors, le paradoxe des projets, il y a un paradoxe au projet éolien en mer, mais comme tout autre projet énergétique, c'est que ça satisfait à la fois l'intérêt général et l'intérêt commercial, pécunier des industriels. Pourquoi l'intérêt général ? Bah, tout simplement parce que déployer de l'éolien en mer, c'est contribuer à la sécurité des approvisionnements énergétiques de la nation, et c'est une des missions de l'État. Mais il y a un intérêt aussi des industriels, qui est de gagner de l'argent, et voilà, de réaliser un joli projet, de faire du développement technologique, etc. Bon, ils y gagnent. Et donc, effectivement, ces projets se mettent en œuvre sur la base de mécanismes d'aide. Et je dis bien aide. Or, aider, de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire un loyer bas ou une aide ou une compensation au titre du service public de l'électricité, comme ça faisait avant et qui a été censuré par la Commission européenne, ça veut dire s'exposer à ne pas respecter les règles contenues dans les traités européens. Dans les traités européens, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a les articles 107 à 109 qui prévoient que les aides sont soit interdites, soit susceptibles d'être autorisées, soit autorisées. Et les aides qui sont attribuées dans le cadre de mécanismes de soutien au prix de l'électricité produite, notamment en mer, eh bien, se sont trouvées justement en contrariété avec les dispositions du traité. La France avait négligemment oublié de notifier le mécanisme de compensation au titre du service public de l'électricité. Donc, on a dû revoir la copie et finalement, on a changé le mécanisme de soutien. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un complément de rémunération. Voilà. Et donc, c'est le prix du marché plus la différence entre le prix du marché et le prix que l'opérateur, en gros, a demandé à être payé dans le cadre de l'appel d'offres. Et c'est finalement le consommateur final qui va, d'une manière facturée sur sa facture terminale, payer la différence. Mais c'est très important de souligner que les mécanismes d'incitation tombent sous le coup quand même de nos engagements européens, là encore. Et le marché de l'énergie, c'est un marché qui est ouvert à la concurrence. Donc chacun doit affronter ce marché avec ses forces et pas avec des subsides issus de l'État. Donc c'est strictement encadré. On peut, dans une certaine mesure, participer, mais pas aider, en tout cas, totalement. Ou on ne peut pas avoir un mécanisme reposant uniquement sur des aides d'État. Voilà. Mais on voit bien l'État français, par exemple, qui intervient en soutien des consortiums par le biais de sa banque, la Caisse des dépôts et consignations, se retire dans un deuxième temps et laisse des fonds d'investissement et d'autres investisseurs lui succéder dans le financement des projets. Ce sont des projets qui sur le moyen terme sont des projets intéressants pour les investisseurs. Donc voilà.
D'accord. Autre grande notion très importante quand on parle de développement durable, c'est la notion de compensation. C'est-à-dire on compense, on enlève un bénéfice à quelqu'un, on lui donne une compensation ou il y a une perte nette du côté de l'environnement, il y a moins de poissons, il y a moins de je sais pas. Et on va imaginer un système de compensation. Alors, c'est très compliqué. Il y a Pierre Semama qui est spécialiste à Amur et qui va faire une intervention le 8 mars, je m'en souviens. Donc je vous invite à venir, c'est passionnant, c'est un peu compliqué, mais c'est passionnant. Donc il s'intéresse à la comptabilité de ces choses-là. Mais là, j'ai posé la question à Antoine, qui m'a dit qu'il n'était pas spécialiste de la compensation. Mais... Donc est-ce que la notion de compensation ou quelle pertinence a la notion de compensation en écologie? Et notion un peu similaire, c'est la notion de service écosystémique, c'est-à-dire l'environnement nous rend des services qu'on peut mesurer, parce que ça devient un service comme n'importe quel autre service. Voilà, que pensez-vous en tant qu'écologue, et puis peut-être après en tant que citoyen éventuellement, sur cette notion de compensation écologique? Et après, plus généralement, compensation, pas seulement écologique.
Donc, vous l'avez dit, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai quand même un avis là-dessus.
Ben, je le dis parce que c'est vous qui avez pris ces précautions-là et je ne tiens pas à vous mettre en difficulté. Vous êtes quand même chercheur à Ifremer.
Disons que c'est un peu en marge de mon activité de recherche.
Mais on n'a pas de spécialiste à compensation. Peut-être dans la salle, on va en trouver un. Parce qu'on en trouve
non, mais en fait... Peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est que ce processus de compensation, il s'inscrit plutôt dans le fameux triptyque éviter, réduire, compenser. Et avant de parler de compensation, c'est quand même bien d'appuyer sur le fait qu'il faut essayer de minimiser les impacts au maximum. Et déjà, en premier lieu, il faut essayer de les éviter au maximum. Et c'est aussi le rôle de l'étude d'impact environnemental de faire ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper quels vont être les impacts et à quel niveau d'intensité, et puis autant que possible, on va essayer de les éviter, c'est-à-dire que s'il faut raccorder un parc éolien à terre, et bien la route du câble, on va la faire cheminer de manière à éviter les habitats les plus fragiles, par exemple. Pour les périodes de travaux, on peut essayer de privilégier les périodes de l'année qui vont déranger le moins certaines populations d'oiseaux ou de mammifères. Ça aussi, c'est de l'évitement. Et ça, c'est des mesures très concrètes. Hein. Ça permet vraiment de minimiser les effets sur l'environnement. Et puis, bien sûr, si un projet est accepté, il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter de toute façon. Il faut bien raccorder un parc, il faut bien poser des éoliennes. Et à ce moment-là, il y a des mesures qui existent pour réduire l'empreinte. Par exemple, pendant la période des travaux, on peut essayer de réduire l'intensité du bruit qu'on émet en installant les fondations. Il y a diverses techniques, elles ne sont pas toujours possibles dans tous les contextes. Par exemple, il existe des rideaux de bulles qu'on peut installer autour des zones de chantier pour essayer d'absorber une partie du son qui est émis par le chantier. Bon, ça marche bien dans les zones où il n'y a pas beaucoup de courant, les zones qui ne sont pas très profondes, etc. Il y a des chantiers qui encerclent la zone de battage des pieux dans un espèce de fourreau qui, là aussi, minimise le bruit. Enfin bref, il y a toute une série de techniques qui permettent de réduire l'empreinte qu'on exerce sur le milieu. Et puis, en dernier lieu, on l'a dit à plusieurs reprises, toute activité humaine en mer elle a un impact, c'est indéniable. Et donc, on peut, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, essayer d'envisager si on peut restaurer le milieu, l'écosystème, d'une certaine façon, parce que...
Quelquefois, on imagine une restauration ailleurs aussi.
Oui, alors ça peut concerner des zones autres que la zone proprement dite du chantier. Quand on écrase une partie du fond marin, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir restaurer à l'emplacement même des éoliennes. Donc, il faut trouver un autre endroit. Mais ça pose plein de questions. La compensation, ça peut laisser penser que tous les compartiments biologiques de l'écosystème sont substituables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer une espèce X détruite par une espèce Y à un autre endroit, ce qui est rarement le cas. Ça laisse penser que les espèces jouent possiblement le même rôle écologique, ce qui est rarement le cas. Enfin, il faut s'entourer d'une multitude de précautions avant de pouvoir prétendre essayer de restaurer un écosystème. Et en fait, c'est d'autant plus vrai en milieu marin parce qu'on a moins de recul que pour les écosystèmes terrestres qui sont mieux circonscrits. En milieu marin, tout se mélange et souvent c'est mieux de laisser un écosystème se régénérer tout seul à condition de stopper les pressions à cet endroit, je dis bien à condition d'éliminer les sources de perturbation, plutôt que d'essayer de le manipuler et d'exercer une restauration dite active. Dans certains cas, ça peut être pertinent. Par exemple, je peux citer l'exemple du raccordement électrique du site hydrolien de Paimpol-Bréa qui a dû traverser des zones sensibles à la côte, des herbiers sous-marins. Et donc, il a été tenté de replanter ces mattes d'herbier sous-marin à proximité.
Ah, c'est vrai ?
Dans des endroits où l'herbier était déjà présent mais avait été dégradé, parce qu'il ne s'agit pas de tenter ces expériences n'importe où. Et ça a été en partie un succès, seulement en partie, parce que ça n'a pas marché partout. Et puis aussi, ces mesures de compensation, il faut s'assurer qu'elles sont efficaces sur le long terme. Il ne s'agit pas d'aller regarder ce qui se passe l'année d'après et puis de se satisfaire de ça, parce que il y a des effets long terme qui sont durs à anticiper et puis ça ne peut pas forcément...
C'est là qu'il faut anticiper.
C'est pas forcément durable, ouais.
Oui.
Donc, j'ai un sentiment, je suis prudent avec cette compensation, surtout en milieu marin.
Il vaut mieux éviter, ensuite réduire et au pire compenser.
Oui, c'est ça.
J'ai posé la question à Julien sur la compensation là, économique. Parce que, quand on dit économie, on dit argent. L'argent est un équivalent général, donc a priori c'est plus simple. Alors, les mathématiques peuvent réduire l'affaire.
Je vais tout de suite rectifier. Je ne vais pas parler de. Je vais distinguer l'économie de la finance, si vous voulez. Je trouve l'économie okay. noble et la finance Merci. Parfois insultante. Donc je vais parler de compensation financière pour parler du moyen, hein, du média, qui est l'argent. Non, alors juste pour compléter sur la question de la compensation écologique, hein, dans le cas des parcs éoliens offshore, ce qui est quand même assez remarquable, c'est une étude qui avait montré ça il y a quelques années, hein, c'est qu'en étudiant la mise en place de différents sites en Europe du Nord, il y avait très peu, voire pas du tout de compensation au final. Alors ça avait été une interrogation. Pourquoi n'y a-t-il pas de compensation? Puisque la séquence ERC dont Antoine a parlé est quelque chose qui est très classique en Europe, et tous les pays, dans leur législation nationale, ils sont soumis de près ou de loin. Et en fait, voilà, quand on regardait un petit peu la mise en place des projets, on voyait qu'il n'y avait pas du tout de compensation. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une des raisons qui était mise en avant, c'était simplement qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact résiduel. Alors, est-ce que c'était véridique ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était une manière de motiver cela. Et si on regarde aussi pour les 4 cas d'études de l'appel d'offres de 2011, donc si j'ai bonne mémoire, enfin, donc, pour Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Courseul et puis Fécamp, il y a très très peu, là aussi, dans la mise en place de la séquence ERC par les porteurs de projet, il y a très très peu au titre des lignes mesures compensatoires. Il y a très très peu de choses, et des choses d'ailleurs qui n'ont pas grand chose à voir avec de la compensation écologique, puisque il va y avoir de l'installation de radars par exemple pour sécuriser les zones du fait des problèmes de navigation, et il va y avoir des indemnisations financières des pêcheurs, et ça n'a pas à voir à grand chose sur l'impact sur la faune marine. Très indirect, c'est les conséquences humaines de cela. Donc ça nous amène effectivement à la question après d'autres formes d'indemnisation ou d'autres formes de compensation, qui est la compensation financière. Mais j'ai envie d'élargir un petit peu et de justement parler plutôt des différentes formes de compensation pour aller peut-être faire gagner du temps par rapport au timing. La question après de l'acceptabilité de tout cela. Quel rôle peut avoir la compensation dans l'acceptabilité? Et il y a un travail aussi très intéressant qui avait été mené au sein d'Amur il y a quelques années par Charlène Kermagoret dans le cadre de sa thèse. Et elle avait, dans le cadre du parc de Saint-Brieuc, été enquêtée auprès de communautés de pratique. Et alors à une époque où, et toujours aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ressemble ce parc-là, elle demandait aux gens de se représenter par des cartes mentales l'idée qu'ils se faisaient ou les représentations qu'ils avaient de leur des impacts, hein, ou des effets du projet de parc, et par rapport à ces impacts et leur ressenti personnel, est-ce qu'ils vont être eux directement impactés, est-ce qu'ils vont les subir ces impacts-là, ou est-ce que c'est des impacts qu'ils considèrent pour les autres, se poser la question après de l'acceptabilité ou pas d'une compensation, et sous quelle forme. Et ce qui était vraiment très intéressant dans ce cas-là, c'est qu'elle a montré deux choses. L'acceptabilité, je dirais, d'une compensation en tout cas la compensation comme moyen de favoriser l'acceptabilité du projet était conditionnée à deux dimensions. D'abord, est-ce qu'il s'agissait d'une compensation financière ou non financière? Et compenser financièrement proposer une compensation financière était souvent un motif de rejet. Oui. Les gens, en fait, refusaient une indemnisation financière, un peu au sentiment qu'ils allaient être achetés. Et donc, voilà, donc du non financier plutôt que du financier. Et l'autre dimension, c'était est-ce que c'était une compensation individuelle ou une compensation collective? Et là encore, on préférait, on ressort de ces travaux-là, une préférence pour les compensations de nature collective plutôt que des compensations individuelles. Voyez, donc c'est quand même très intéressant de montrer quand même que derrière l'argent, il peut y avoir une notion un peu d'achat ou de...
Évidemment, oui, l'argent est très compliqué.
Exactement, avec le rapport ambivalent de l'argent. Et donc, c'était intéressant de voir justement comment on pouvait réfléchir à des mécanismes d'accompagnement pour faciliter l'acceptabilité d'un projet, éolien ici, mais certainement dans d'autres cas de figure, ça aurait été les mêmes types de résultats. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut identifier des modalités d'accompagnement ou des mesures d'accompagnement qui permettraient d'améliorer l'acceptabilité d'un projet en évitant de faire des impairs, par exemple, en proposant à quelqu'un, ce qu'il ne faut absolument pas faire, une compensation financière. D'autres communautés de pratique sont plus enclines à demander des compensations financières, les pêcheurs en particulier, ou même les communes littorales par la taxe dont on a parlé tout à l'heure.
Les pêcheurs, c'est des agents économiques.
Enfin, c'est ça. Oui.
Mais c'est intéressant de savoir que effectivement, les gens préfèrent autre chose que de l'argent, et en plus, ils pensent collectivement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, je dirais.
Donc, pour dire l'intérêt de ces travaux-là, c'est pas forcément des travaux exclusivement d'économie, mais ça permet de réfléchir aussi un petit peu à quelles attentes ont les gens aussi en retour d'un projet de ce type-là, à quoi ils veulent prétendre ou pas, et sous quelle forme. Voilà.
Moi, je voudrais finir sur une question qu'a voulu... Antoine.
Sur la compensation, il y a un autre aspect intéressant qui avait été aussi mis en avant par le travail qu'évoquait Julien, là, l'étudiante qui avait travaillé à l'Ifremer. C'est le fait que quand on a affaire à plusieurs projets de parc sur une façade, parfois, là, il y a des mesures compensatoires qui sont intéressantes à mettre en œuvre à une large échelle, qui pourrait englober une multitude de parcs éoliens. Je pense en particulier aux oiseaux marins. Il y a des espèces dont on sait qu'elles vont subir, un certain impact, un certain taux de collision de mortalité par an, par éolienne et par parc. Et plutôt que d'essayer de compenser au cas par cas, on peut essayer d'agréger des mesures compensatoires pour mettre en œuvre un programme de restauration de plus grande envergure qui sera... en général, beaucoup plus efficace que s'il est morcelé parc par parc. Et à ce moment-là, ça peut vouloir dire préserver l'aire de nidification de telle espèce parce qu'on sait qu'il va y avoir un certain nombre de collisions à plusieurs endroits. Et donc, c'est souvent beaucoup plus bénéfique que d'appréhender les choses secteur par secteur.
On voit que la notion d'échelle est très très importante dans tous les problèmes qu'on soulève. Moi, je voudrais finir par une question que je pose à chacun d'entre vous, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse en premier, peut-être. Quel est le rôle ou quel devrait être le rôle des scientifiques ou des disciplines, le droit, l'économie, l'écologie, dans ce vaste débat ou quel est l'apport des juristes, par exemple, sur la question... elle est très importante, on le voit, mais comment on pourrait la résumer, la décrire sur la question des projets éoliens
Le rôle des juristes, non.
Non, si.
Non, le rôle du droit.
Oui, du droit, oui, voilà. Non, du droit.
Parce que les juristes, je pense qu'aucun juriste prétend...
Mais le droit a un
porte-parole. J'espère, quoi que ce soit. Ouais, le droit peut jouer un rôle très important. Moi, je résumerai à trois mots. Rassurer, et autant d'ailleurs les porteurs de projets que les citoyens intéressés par les projets. Simplifier. Oui. Ça, c'est très important et c'est le processus qui a été engagé il y a déjà 10 ans avec la neutralisation du permis de construire en mer, etc. On a progressivement développé un cadre juridique plus adapté. Donc, on a simplifié les procédures. Ça ne veut pas dire qu'on a bradé les exigences environnementales, etc. On a simplifié, on a créé des autorisations uniques, un guichet unique, etc. Mais on n'a pas bradé quoi que ce soit et on a sécurisé. Et sécuriser, ça concerne à la fois les porteurs de projets et les citoyens et les associations, etc. Donc, on a, en sécurisant, comme disait l'autre jour, tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, on a essayé de dérisquer, mais dérisquer pour tous, en réalité. Donc, le rôle du droit, pour moi, c'est ça. C'est sécuriser, simplifier, rassurer dans le cadre de ces processus.
D'accord. Voilà. Merci. Oui, c'est une bonne, un bon résumé, je trouve. Le rôle de l'économie et des porte-parole des économistes, mais enfin de l'économie.
Je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement c'est la discipline, qui vaut et pas les économistes. Mais juste pour dire, je pense que c'est commun. En fait, ce que je veux dire, je pense que c'est commun aux trois. Hein, c'est qu'il faut beaucoup de modestie et de prudence sur les apports de nos disciplines respectives, parce que c'est le savoir et la frontière du savoir qui nous appellent. Et qui nous amène à cette modestie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on essaye de faire, je pense aussi tous les trois, les trois disciplines, c'est d'aider à mieux fonder les prises de décision dans ce type de projet, à d'éviter autant que possible que des mauvaises décisions soient prises. Ce qui va un petit peu peut-être singulariser l'économie, c'est ce qu'elle fait... parfois utilement, des fois pas très bien, mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez utile, il faut lui donner ce crédit-là, c'est faire apparaître des gains là où on n'en voit pas forcément et faire apparaître des coûts là où on n'en voit pas forcément sur le plan strictement financier. Voilà, éviter des coûts qui seraient invisibles et qui conduiraient à des mauvaises décisions et éviter de ne pas passer à côté de gains qui nous justement détourneraient d'une bonne décision. Ensuite, cette notion de coût social vraiment qui est intéressante, je pense que met en avant l'économie, qui permet de voir un petit peu comment se répartissent les coûts et les gains financiers et pas que financiers, et voir justement parmi les différentes catégories d'acteurs où se concentrent les pertes et les gains, où sont les gagnants gagnants éventuels ou les perdants éventuels quand il s'agit de... Il n'y a aucun projet, il n'y a pas d'énergie propre, d'accord ? Toute énergie est sale. Il n'y a jamais un projet pour lequel tout le monde va être gagnant. Il y a forcément des perdants dans une histoire. Après, la question de l'intérêt collectif ou de l'intérêt public, c'est d'aller dans le sens qui est le plus intéressant tous ensemble, mais en ayant conscience qu'effectivement, certains seront lésés. Donc, l'intérêt justement du regard des apports de l'économie, c'est peut-être d'identifier ces zones ou ces groupes d'acteurs qui sont perdants et à ce moment-là d'aider à réfléchir sur des moyens d'accompagnement pour faciliter ou permettre la mise en œuvre de projets à la condition que leur utilité collective ait été bien évidemment prouvée. Et tout ça pour dire aussi à la fin que c'est un travail qui est intéressant souvent l'économie, c'est de décentrer un petit peu le propos, poser la question effectivement de peut-être l'analyse de coût de vie, du cycle de vie d'une éolienne pour montrer qu'elle n'est pas propre. Mais il faut tout. Il faut montrer toutes les énergies pour voir qu'elles ne sont toutes pas propres, elles ne se valent pas toutes. Il y en a certaines qui doivent être privilégiées plutôt que d'autres. Donc c'est faciliter et ou en tout cas faire apparaître des arbitrages et peut-être aider à faire ces arbitrages. C'est, je pense, une des contributions, une des aides que peut apporter l'économie, sachant que ce n'est pas l'économie qui décide au final, mais elle apporte simplement plus d'éléments sur la table pour faciliter la prise de bonnes décisions, je pense.
Bon, la même question à Antoine. Alors, il est 8 heures, mais bon, on a eu le temps de répondre.
Le rôle des écologues, moi, je pense qu'on est là pour apporter, pour essayer d'apporter un maximum de données, des éléments tangibles pour alimenter le débat et essayer de faire en sorte de dépassionner certaines questions sur les impacts environnementaux, parce que parfois il y a des craintes qui sont fondées, mais parfois il y a des craintes qui sont un peu fantasmé, et donc nous on doit essayer de mettre sur la table des données les plus concrètes possibles. On est là pour essayer d'être les plus objectifs possibles, et je dirais aussi que c'est intéressant de remettre au maximum les choses en perspective, donc dans une perspective géographique plus large, mais aussi remettre en perspective les impacts de l'éolien offshore, puisqu'on en discute ce soir, mais par rapport aussi aux autres activités humaines, parce que des fois, en replaçant ces choses-là dans un contexte plus large, on prend conscience que des choses qu'on considère dramatiques ne le sont pas forcément, ou à l'inverse, ça peut soulever des questions qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Donc voilà.
Merci à Antoine Carlier, écologue à l'IFREMER au sein du laboratoire d'écologie benthique côtière, à Gaël Guéguin, professeur de droit à l'UBO, juriste au laboratoire Amur, à Julien Hay, enseignant-chercheur à l'UBO, économiste au laboratoire Amur. Dans le prochain numéro du Lab U, nous nous interrogerons sur la durabilité de la pêche professionnelle. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et sociétés.